Et c'est la rentrée des écoles primaires, entre les tests et les protocoles sanitaires, quel est l'état d'esprit du personnel éducatif? Caroline Marchand est avec nous, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire départementale du syndicat du premier degré, SNIUPP FSU 93, et enseignante en primaire à Seine-Saint-Denis.
Oui, Caroline Marchand, avant de parler peut-être du protocole sanitaire, 15 000, la vaccination des enseignants est un point de tension aussi. Hein. 15 000 enseignants, dit-on, vaccinés, il en faudrait beaucoup plus. Un vaccin toujours réservé aux plus de 55 ans. Quelle est la situation, par exemple, autour de vous, des enseignants avec qui vous travaillez?
Eh bien, bonjour. La situation des enseignants avec lesquels je travaille est très problématique, effectivement, pour la vaccination, parce que beaucoup de collègues, en particulier dans le 93, sont en moins de 55 ans.
Oui.
Et en fait, les collègues essayent par tous les moyens de se faire vacciner et n'y arrivent pas, parce que soit les centres de vaccination sont complets, et comme la vaccination est prioritaire juste seulement pour les plus de 55 ans, ben, les collègues ne peuvent pas se faire vacciner, et c'est une réelle problématique. Nous, ce que l'on pense, c'est que l'employeur devrait protéger ses employés. Le ministère de l'Éducation nationale nous envoie dans les écoles et devrait se donner les moyens de nous protéger, nous et les élèves et les familles dans lesquelles les élèves rentrent le soir.
Oui, c'est ça. Et là-dessus, est-ce que vous avez eu, puisque vous êtes également responsable syndical, est-ce que vous avez eu des réponses? Je sais qu'il y a des négociations qui sont en cours pour élargir cette vaccination aux enseignants et ne pas se limiter à ces 55 ans ou alors à des cas de comorbidité?
Alors pour l'instant, même avec les négociations, avec les oui. discussions avec le ministère, nous n'avons pas d'élargissement. Hein. L'élargissement à partir de 50 ans serait la mi-mai, on n'est pas vraiment sûr. Et après, on nous parle de mi-juin, en sachant que ben, mi-juin, cela veut dire qu'on sera peut-être tous vaccinés en juillet-août et peut-être seulement au mois de septembre. Donc là, c'est un peu inacceptable pour les personnels d'avoir ces réponses qui n'arrêtent pas de se décaler.
Oui, et le protocole sanitaire, est-ce qu'il a été renforcé? Est-ce qu'il est suffisant, par exemple, dans les cantines? Alors, Jean-Michel Blanquer a dit il y a quelques jours, hein, le mieux, c'est de faire rentrer vos enfants pour déjeuner. Ce qui n'est pas toujours simple, évidemment, pour certaines familles.
Bah évidemment, et puis prévenir les familles comme ça du jour au lendemain, c'est un petit peu ce que l'on constate depuis un an. La crise sanitaire ne date pas d'hier, tout le monde le dit. Cela fait un an et rien n'est prévu. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, en aidant les collectivités territoriales, les municipalités, à équiper les locaux de purificateurs d'air et de détecteurs de CO2, que ce soit dans les classes ou dans les restaurants scolaires. Ça, cela n'a pas été fait et cela repose encore sur les parents. Parce que là, les parents, on leur demande de garder leurs enfants. On n'est pas sûr qu'une fois que les parents sont partis au travail et qu'ils puissent les récupérer pour pouvoir les faire déjeuner à la maison.
Mais par exemple, vous, Caroline Marchand, comment ça se passe du côté de la cantine? Est-ce que vous avez réussi à séparer, à obtenir un peu de la distance entre certains élèves ou ce n'est pas possible compte tenu de l'aménagement des locaux quoi, et puis du nombre d'élèves?
Alors, nous, on a la chance, moi, dans mon école, d'avoir un self-service, ce qui permet d'avoir une fluidité dans le passage des élèves. Et on a pu garder, par contre, les élèves par classe. Et par contre, ils sont obligés de manger un petit peu plus vite. Mais bon, ça, c'est une contrainte. Donc, effectivement, dans mon école, on arrive...
C'est bien organisé, quand même, quoi. Oui.
Ça arrive à être organisé, et heureusement, parce que, effectivement, dès qu'il y a un cas contact, ou un élève qui est déclaré positif, c'est toute la classe qui est concernée maintenant, depuis même avant les vacances, puisqu'on doit fermer la classe et on doit bien voir si les élèves ont mangé ensemble ou avec d'autres élèves.
Oui, Caroline Marchand, quid des tests salivaires et des autotests? Est-ce que vous en avez reçu?
Alors, les autotests, non, puisque nous étions encore en vacances jusqu'à hier.
Oui.
Par contre, on sait qu'ils arrivent à mon avis, jusqu'à jeudi, vendredi, le temps que les circonscriptions, c'est-à-dire, c'est une chaîne, donc là, ils ont été livrés, ça on le sait, les directions ont reçu des mails pour pouvoir aller les récupérer à proximité de leur école. Donc, cela va être distribué pour les enseignants. Pour les enfants, les autotests, on ne sait pas. Je sais que le département en élémentaire scolarise 115 000 élèves et c'est un département où le virus circule énormément. Nous, ce qu'on aurait demandé, c'est que tout le monde soit testé avant de reprendre l'école.
Oui.
Nous rappelons aussi qu'en maternelle, les enfants ne portent pas de masque. Donc là, les collègues protègent les enfants en portant, eux, le masque, mais en maternelle, on est à proximité des élèves. les élèves ne portent pas de masque et en test salivaire, ils ne seront pas testés parce que c'est une procédure très difficile pour les élèves qui ont moins de 6 ans.
Ouais.
Donc, vous voyez, on a effectivement là de grandes craintes et une anticipation qui n'est pas faite. On aurait mieux fait d'utiliser cette semaine là du 26 au 3 pour les écoles, pour tester massivement les élèves et les enseignants.
Et les faire rentrer plus tard, quoi.
Alors, on aura pu être dans nos écoles, mais être testé et organiser les tests dans les écoles avec les familles et les enfants pour que, voilà, faire une rentrée peut-être un tout petit peu décalé, mais dans un contexte sanitaire
un peu plus sûr,
un peu plus sûr, tout à fait.
Oui. Merci beaucoup Caroline Marchand d'avoir été avec nous et bonne rentrée quand même donc ce matin. Et on salue tous les enseignants et puis les parents également qui sont en train de réveiller les bambins pour les emmener à l'école ce matin en primaire, hein, notamment puisque évidemment le collège c'est en distanciel cette semaine ainsi que les lycées qui démarrent aussi un petit peu plus tard.
Et c'est la fin d'une expérimentation après 40 jours dans la grotte de Lombrive en Ariège. 15 volontaires de la mission Deep Time sont de retour à la surface. Jérémy Roumian est avec nous, directeur des opérations de cette mission Deep Time. Bonjour.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on précise que pour l'instant, la plupart ont rejoint hier l'Institut du cerveau à Paris. Ils vont tous passer des tests, IRM, c'est ça, pour subir des tests post-mission.
C'est ça exactement, puisque en fait, avant la mission, en fait, on a des protocoles scientifiques qui démarrent avant la mission, pendant et ensuite après pour monitorer, pour analyser, évaluer en fait les modifications, en particulier là, l'Institut du cerveau sur la plasticité cérébrale liée au temps. Et donc là, ils sont encore, malgré le fait qu'ils soient sortis, ils sont tous finalement au travail pour continuer le travail scientifique de la mission.
Oui, et puis ils doivent se réadapter aussi, porter des lunettes notamment, parce qu'ils n'avaient plus véritablement de lumière naturelle, ils sont un peu aussi perdus dans le temps, sans montre, sans repère. Comment, c'est vous qui avez ouvert la grille de la grotte, comment étaient-ils quand vous les avez vus samedi ?
L'annonce de la sortie a été une réelle surprise pour les équipiers. La plupart d'entre eux n'étaient qu'au 30e cycle. Un cycle, c'est une période de veille, une période de sommeil pour eux. Et donc, en fait, un petit peu l'équivalent de 30 jours. Donc, c'est vrai qu'au moment où on a passé la porte, au moment où on les a retrouvés sur leur espace de vie, une partie était en train d'aller se coucher, l'autre se réveiller, certains étaient en train de finir leur dîner. Mais en tout cas, aucun ne s'attendait. Et ça a été un moment de stupéfaction, de sidération. Parce que l'expérience touchait à sa fin.
Ouais. Est-ce qu'ils avaient changé physiquement ? Maigri, le teint plus pâle, alors, évidemment.
Pâle, évidemment, clairement, parce que sans 40 jours sans lumière, évidemment. Ouais. Les barbes ont poussé. Ils avaient, pour certains, les traits quand même tirés. Il y a une grosse fatigue. Ouais. Le milieu est très, très impactant. C'est-à-dire qu'il fait 10 degrés à l'intérieur de la grotte, 100% d'humidité, pendant 40 jours de manière continue, avec donc l'impossibilité de recréer quelque chose de plus chaud et ainsi de suite. Donc c'est seulement leurs équipements qui leur ont permis de tenir. Et donc oui, forcément, on a vu sur le matériel, par exemple, avec les choses qui ont avec des pourrissements, du délitement d'un certain nombre de bois et autres. Et donc évidemment,
Ils n'ont pas été malades.
Non, ils n'ont pas été malades. On avait dans les protocoles scientifiques un certain nombre de prises de sang à certains moments qui ont été faits. Et puis ils avaient donc un médecin à l'intérieur de l'équipe, une infirmière. Il n'y a pas eu de problème, non.
Jérémy Roumian, un dernier mot. Combien de temps ça va durer, là, ce protocole post-mission ?
Alors là, c'est quelques jours, donc encore deux trois jours là pour terminer les derniers tests, et puis ensuite c'est un suivi dans la durée. Pendant un mois, c'est encore très intense, puis après les choses s'espacent progressivement jusqu'à un an après la mission, en fait, pour vraiment avoir une vision très longitudinale de l'ensemble des paramètres qui ont été monitorés.
Oui, merci. Bah, on aura l'occasion d'en reparler, et puis on pourra dialoguer aussi un petit peu avec eux dans les jours qui viennent. Merci, Jérémy Roumian. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations de la mission Deep Time. Ils sont remontés de cette grotte en Ariège samedi dernier, donc après 40 jours.
Jamais pu. Dans un instant, l'édito politique, c'est Thierry Garrier, reviendra sur l'attentat de vendredi et la question de sécurité en vue des présidentielles. A tout de suite, il est 7h21.